Alors un an après, ou pas loin, je vais continuer l'histoire de Paul, le voyage de Paul, parce qu'on n'a toujours pas terminé. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'on a fait il y a longtemps. J'imagine que de toute façon, vous lisez régulièrement et donc vous ne l'avez pas oublié. On avait vu le premier et le deuxième voyage de Paul. Donc le premier qui est un petit voyage où il passe juste par l'île de Chypre et puis un petit peu sur l'Asie mineure et bon, il visite quelques églises. Le deuxième qui est déjà un peu plus large où il passe par Troas, Corinthe, Athènes et il fait là déjà un plus grand tour. On peut dire qu'il fait plus ou moins le tour de la Turquie. Mais comme le Tour de France un peu, vous savez, qui passe par la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça. C'est le Tour de Turquie, mais par l'extérieur. Donc il fait un grand, grand tour. Et en fait, il a terminé son deuxième voyage à Corinthe et il est reparti sur la route. Il s'arrêtait rarement, en fait. Il a été... en fait, à Corinthe, il avait rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, Priscille et Aquilas, qui venaient de Rome. Et en fait, ils sont partis avec lui, mais ils l'ont quitté à Éphèse. Quand on prend le trajet, il y a Corinthe, donc ils ont pris un bateau jusqu'à Éphèse, donc en allant vers l'est. À Éphèse, Priscille et Aquilas sont restés là, et Paul a continué. Et en fait, Paul il est retourné à Antioche, comme d'habitude. Tous ses voyages partent d'Antioche à chaque fois, en fait. Il s'est remis en route, et il est arrivé... Il est arrivé encore une fois, en fait, il a refait les églises qu'il a fait lors de son premier voyage. Alors c'est en Galatie, donc les églises où il a rencontré Timothée. Donc il y a Lystre, Derbe, Antioche et une quatrième que j'ai oubliée. Lystre, Derbe, Antioche et une autre. Et donc il refait ces villes-là et en fait il y passe régulièrement. Comme il part d'Antioche qui est la première Antioche qui est juste à côté, il y passe et à chaque fois qu'il fait un voyage quasiment, il passe par ces églises-là et il retourne les exhorter. Et c'est encourageant de savoir que il y a des gens juste à côté de nous qui ont besoin qu'on aille les voir régulièrement, dans un sens. Il faut pas se contenter de... Je sais que souvent on a la vision missionnaire de dire les missionnaires, il faut aller loin. Et c'est vrai, il y a des gens loin à qui il faut apporter l'évangile. Mais il y a des gens qui sont à côté. Et il y a même des gens qui sont peut-être pas loin d'être au Seigneur, mais qu'il faut continuer à exhorter, continuer à faire grandir. Et ces églises-là, elles étaient déjà au Seigneur, c'était des églises. Mais Paul, il y retournait, il continuait à les encourager et il les lâchait pas. Et c'est important de savoir, c'est pas parce que il y allait une fois, il a fondé une église, hop, il y retourne pas, c'est pas son boulot, il est missionnaire. En fait, il est missionnaire, mais il est là pour exhorter les églises aussi. Toutes les lettres qu'on a d'ailleurs, c'était plus du travail d'exhortation et d'édification que du travail missionnaire finalement. Et il faut pas se contenter d'un seul domaine, un seul endroit. Mais il y a tout un tas de choses à faire au niveau des endroits. Il faut aller loin, mais il y a à côté aussi. Et en fait, il y a pas juste créer une église et puis voilà, on la laisse tomber. Après, il faut des gens pour l'aider à grandir, l'aider à persévérer et à apprendre des nouvelles choses du Seigneur. Et en fait, on en était arrivé à Acte 18. Donc Paul est reparti à Corinthe, rapidement, et en fait on nous parle de... Non, la fin d'acte 18. Voilà, en fait pendant que Paul était parti refaire le début de son troisième voyage dans toutes ces églises qui étaient pas très loin, on nous dit donc dans acte 18 verset 24, « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Et le premier verset de chapitre 19, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. » Et on peut dire, zut, ça se goupille vraiment pas bien, le Seigneur il a mal calculé son coup, il aurait pu faire pour qu'Apollos, il soit à Éphèse en même temps que Paul, ça aurait été l'idéal. Il aurait entendu les choses exactement de la bouche de Paul. Et puis Paul, c'était quand même un des disciples de l'époque, une des personnes qui avait certainement une grande autorité. Et en fait, Dieu, il a utilisé Priscille et Aquilas. Et c'est ça que je trouvais pas tant dans cette histoire. C'est que des fois, il va arriver peut-être des choses dans l'église ou peut-être... à côté même de l'église, et puis on se dit, ah mince, ça tombe mal, justement, les anciens, ils sont pas là, ou ils auraient pu lui expliquer, eux, ils sont, on a presque envie de dire, plus compétents pour expliquer. Et des fois, Dieu, il fait exprès, en fait, qu'ils soient pas là, les personnes compétentes. Parce que s'ils étaient là, on les amènerait à eux, et puis nous, on se dit, c'est bon, j'ai fait mon boulot, je les ai amenés à eux, déjà. Mais le Seigneur, des fois, il veut nous pousser un peu plus et dire, non, toi aussi, t'as une certaine compétence. Toi aussi, je veux t'utiliser. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en fait. C'est quand Jérémy est parti en Angleterre, les premiers mois, pour moi, c'était « Qu'est-ce que je vais faire ?» J'avais tout le temps... Il y avait Jérémy devant, moi, je suivais derrière, et j'étais bien tranquille, planqué derrière. Et je le laissais faire tout un tas de choses, et je suivais, c'était tellement plus facile. Et puis, dans les jours où il est parti, j'ai pas de date exacte, en fait, j'ai lu le début de Josué. Et dans Josué, ça dit, voici Moïse, mon serviteur est mort, et maintenant toi, fortifie-toi et prends courage. Et après, Dieu dit à Josué, tu vas faire ce travail-là, tu vas faire ça, et tu vas conquérir le pays. Si Moïse, il était resté, Josué, on n'en aurait peut-être pas entendu parler. Ou quasiment pas, en tout cas. Et moi, il y avait besoin, dans un sens, peut-être pas gentil pour Jérémy, mais que Jérémy parte pour que finalement je trouve ma place et que je me décide à servir le Seigneur en fait et à bouger de ma chaise quoi. Et donc c'était une bonne chose et dans un sens, vous voyez, le Seigneur il utilise ces moments où on se dit la bonne personne elle est pas là, il utilise ça pour fournir la bonne personne ou pour montrer à quelqu'un c'est toi maintenant la bonne personne. Alors ça veut pas dire que si Jérémy revient, je vais me rasseoir, parce que maintenant que je suis en route, je m'arrêterai plus. Et ça me fait l'histoire d'Apollos, ça me fait vraiment penser à moi aussi. Bon, je vous l'ai raconté très souvent, mais avec ces années que j'ai passées à l'école du dimanche, ou même avec Ira qui venait déjà chez ma grand-mère, les histoires que j'ai entendues des dizaines et des dizaines de fois, et en fait j'étais très bon à tout ce qui était quiz biblique. Je connaissais un tas de trucs sur la Bible. Enfin, je les connais encore, je les ai pas oubliés, heureusement. Mais on parlait avec Sophie l'autre fois pendant la présentation. Elle disait, un tel, en parlant des enfants, il en connaît vraiment énormément de choses sur le Seigneur, c'est épatant. Et il me disait, ouais. Et dans mon cœur, il y avait, ouais, mais moi aussi. Et ça empêchait pas que j'étais pas chrétien quand même, même en connaissant tout ça. Et c'est sûr, c'est une bonne base, c'est quelque chose que le Seigneur il va utiliser après. Mais c'est pas toutes les connaissances, c'est pas tout ce qu'on peut savoir sur la Bible qui fait de nous un chrétien. Et c'est peut-être le danger, je pense, quand on est dans l'église depuis très longtemps, c'est d'entendre les choses, de les connaître même quasiment par cœur, de connaître même les petits détails qui font que dans les quiz on met des points au moment où les autres ils les mettent pas. Mais ça change pas, ça fait pas de nous un chrétien pour autant. Et Apollos, en fait, il me ressemble énormément. Il était versé dans les Écritures. J'étais enfant, mais on m'avait appris tout un tas de choses, on m'a appris, et je remercie ceux qui me l'ont appris. Il était fervent d'esprit, il était instruit dans la voie du Seigneur, et il annonçait avec exactitude, et il enseignait, ce qui concerne Jésus. Ça, c'est frappant pour moi, c'est qu'il parlait de Jésus, il enseignait sur Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Et il lui manquait quelque chose, il lui manquait d'avoir réellement connu Jésus, d'avoir réellement connu l'œuvre du salut. Et je suis pas devenu chrétien le jour où j'en ai appris un peu plus, où j'ai appris ce qui me manquait, il m'en manque encore plein en fait, mais ce qui me manquait dans la parole. Je suis devenu chrétien le jour où je me suis réellement rendu compte de ce que Jésus il avait fait pour moi, que je lui ai demandé pardon pour mes péchés, et qu'il m'a sauvé. Et quelqu'un qui y connaît rien du tout, c'est la même chose pour lui en fait. Il peut être sauvé sans rien y connaître du tout. Alors l'avantage quand on connaît plein de choses, quand on a appris plein de choses à l'école du dimanche, c'est que le Seigneur il ressort ces choses et dit alors, tu les connais par cœur et t'en fais quoi? Tu les vis ces choses-là? Et là au moment où il les ressort, où il les montre, c'est vrai, je le sais depuis des années et j'avais jamais pensé que c'était pour moi en fait. Et ça nous frappe. Quelqu'un de l'extérieur, le Seigneur utilisera d'autres façons pour le toucher. C'est, dans les deux cas, il y a des bonnes choses. En tout cas, ce qui lui manquait, c'était ça à Apollos. Et c'est bien parce que Priscille et Aquilas ont pu lui expliquer ces choses-là. Il faut pas forcément des gens très qualifiés pour expliquer l'évangile aux gens. L'évangile, il tient juste à ça. Reconnaissez que vous êtes pécheurs devant Dieu, demandez-lui pardon et acceptez que Jésus, il est mort pour vous. Et ça, je pense que n'importe qui ici peut le faire et peut le dire aux autres. Alors pendant ce temps-là, en fait, pendant qu'Apollos, il était à Éphèse, Paul était parti. Et après, eh ben, ça s'est inversé, forcément. Ça, c'est le Seigneur qui fait les choses comme ça. Il est parti, Apollos, à Corinthe. Et Paul, il est revenu à Éphèse. Et il est arrivé à Éphèse. Mais ce qui est rassurant, donc c'est le chapitre 19, les premiers versets, c'est que Paul, il fait exactement la même chose que ce qu'ont fait Priscille et Aquilas. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc Apollos, on était à Éphèse, là, il est parti à Corinthe, et Paul, lui, il est arrivé à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. » Et je sais pas si ça vous est arrivé d'avoir envie de dire quelque chose, d'aller le dire au micro, ou même moi ça m'arrivait très souvent pendant les réunions d'hommes ou les études bibliques, de me dire, ça me fait penser à ça, et d'avoir quelque chose à expliquer, de me dire, ben non, je vais pas le dire, des fois on sait pas trop les raisons, soit c'est juste par fainéantise, on n'a pas envie d'ouvrir la bouche, soit des fois c'est par peur simplement, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on parle pas. Et là, il y a quelqu'un, alors, typiquement un des deux anciens, qui dit exactement la chose qu'on allait dire. Et on se dit, oh, j'allais dire. Et en fait, c'est un peu deux choses qui viennent du Seigneur, je trouve. C'est un peu une façon, alors c'est pas parce que les anciens le disent que c'était forcément bien, hein, mais quand même, normalement. En tout cas, on leur fait confiance. Ça fait deux choses quand ça se passe comme ça. En tout cas, pour moi, ça me fait deux choses. Une fois, la première, c'est le soulagement de me dire, c'est bon, ce que je pensais, c'était bon, et en tout cas, les anciens pensent comme moi, et ça me rassure. Et la deuxième chose, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dit ? Et pourquoi je ne l'ai pas dit ? Parce que j'ai eu peur, ou je ne sais pas trop quelle raison. Et là, le Seigneur, il travaille aussi par ces choses-là, il dit, tu vois, si tu avais parlé, je t'aurais utilisé, et comme tu t'es tu, comme tu n'as rien dit, bah, je suis obligé d'utiliser quelqu'un d'autre. Et on revient à cette histoire de, des fois, il faut que les gens compétents ne soient pas là, pour que nous, on se mette à parler. Et puis, de temps en temps, le Seigneur nous montre, tu vois, si tu avais parlé, c'était la bonne chose. Tu es compétent, alors pourquoi tu restes assis? Pourquoi tu te tais? Alors, le baptême de Jean, il y a un verset qui m'a un peu fait réfléchir un petit peu, qui est dans Luc 29. Parce que dans les deux histoires qu'on vient de voir, en fait, c'est un des points clés. Il connaissait uniquement le baptême de Jean, et puis rien d'autre. Il manquait la petite touche finale. Luc 7, verset 29, pardon. C'est bien. Donc c'est Jésus qui parle et qui dit, donc Luc 7, verset 29, « Et tout le peuple qui l'a entendu, donc il parle de Jean. » Je vais reprendre au 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Et il y a deux types de personnes, il y a les publicains et tout le peuple qui ont justifié Dieu. Et je me dis, mais de quoi on peut justifier Dieu? Il n'a rien besoin, il est justifié lui-même et il n'y a besoin de personne. Et en fait, ils ont justifié le fait que Dieu ait envoyé Jésus pour pardonner nos péchés. Comment ils ont fait ça? Juste en se faisant baptiser, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin du pardon des péchés. Et le baptême de Jean ne leur donnait pas forcément tout ça, mais c'était un signe que je me repens de mes péchés. Mais Jean, il apportait rien de plus. Et il leur fallait le baptême de Jésus pour aller plus loin et pour réellement rentrer dans le royaume de Dieu. Et à l'inverse, les pharisiens, les docteurs de la loi qui ne se sont pas fait baptiser, eh ben, ils disaient à Dieu, j'ai pas besoin de ton salut, moi, j'ai rien besoin, je suis juste, j'ai pas besoin de baptême de repentance. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention dans nos vies, c'est la repentance. Et je m'aperçois moi-même que au plus on veut avancer avec le Seigneur, au plus on a à se repentir, en fait. Et quand des jours on se lève et qu'on se dit, il y a deux façons de le faire, mais quand on se dit, je me sens bien aujourd'hui, je sens que, enfin, on le dit pas comme ça, mais je suis parfait aujourd'hui. Enfin, la journée, elle part bien et je suis bien. Et c'est bien, c'est sûr. Le Seigneur, il nous permet d'avoir une paix dans notre cœur. Mais je crois qu'il y a bien des fois où on prie en se levant, justement. C'est la chose qu'on se fait en se levant. Et puis on se dit, et on désespère sur notre cas. Et au plus on désespère sur notre cas, au plus le Seigneur, il nous remonte. Et puis, au plus on justifie. Parce qu'à chaque fois qu'on prie en se disant « Je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin d'être changé, qu'il y a encore plein de choses qui vont pas, ou qu'il y a encore quelque chose qui vont pas, faut pas être négatif forcément. » À chaque fois, on dit à Dieu « J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin du baptême de Jean, dans un sens. » Et on est obligé de passer par la repentance pour grandir avec le Seigneur. Si vous vous repentez pas, ben Dieu peut pas effacer vos péchés, peut pas effacer toutes les choses qui sont pas encore mises en règle. Et c'est le premier pas à faire avant tout le reste. Et à chaque fois, moi je l'ai remarqué vraiment dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu à pleurer sur mon cas et à me dire « Seigneur, mais ce truc-là, faut vraiment que tu le changes, je reconnais que ça t'honore pas », à chaque fois c'est là où le Seigneur y a travaillé, où les choses se sont remises en route et où j'ai pu continuer à avancer. Et à chaque fois, au contraire, que je me suis dit, finalement, là, si je regarde, ma vie, avec le Seigneur, elle est pas mal. Des fois, on le fait peut-être pas comme ça, mais il y a de l'idée dans notre tête de dire, ouais, c'est déjà pas mal, c'est sûr, il y a des trucs à améliorer, mais bon, je suis assez content, ça prend une bonne voie. Et à chaque fois qu'on se dit ça, on s'aperçoit pas longtemps après qu'en fait, toute cette période-là, c'est un désert où on n'avance pas et on progresse pas. Et les pharisiens et les docteurs de la loi, quand ils sont pas fait baptiser, ils ont mis un point d'arrêt à Dieu. Ils ne pouvaient plus rien faire. Vous ne voulez pas vous repentir de vos péchés, alors je ne peux rien faire pour vous. C'est vraiment un point qui est extrêmement important dans nos cœurs, dans nos vies, de se repentir des péchés pour que l'œuvre de Dieu continue. C'est pas la totalité, c'est que le baptême de Jean. Après, il faut aller voir Jésus et réellement profiter de ce qu'il nous donne et profiter du salut qu'il nous offre. Mais c'est un point extrêmement important. Et quand on revient dans le livre des Actes, les gens qu'a rencontré Paul, donc c'était Actes 19, verset 6, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Il y a d'énormes débats entre les dénominations pour dire « Est-ce qu'il faut forcément parler en langue quand on est sauvé ? Est-ce qu'il faut forcément prophétiser ?» J'imagine que Daniel en parlera dans la suite de ce qu'il va dire sur l'Église. Dans tous les cas, il y a forcément un signe dans votre vie qui montre que Dieu vous a sauvé. On le voit pas forcément tout de suite, mais il y a quelque chose qui doit changer. Sinon, c'est que Dieu, il a rien fait. Notre vie avant, c'était le péché. On l'a reconnu en se faisant baptiser et en demandant pardon à Dieu. Notre vie après, ça doit être différent du péché. C'est forcément différent. Et l'image que j'avais un petit peu, en fait, du baptême de Jean et du baptême de, on va dire, de Jésus ou de l'Esprit, c'est que si vous arrêtez au baptême de Jean, si vous restez même 20 ans, 50 ans, je ne sais pas combien d'années on peut rester dans l'Église, et que vous ne connaissez pas réellement le baptême du Saint-Esprit, alors c'est comme si vous faisiez 1500 km pour aller en vacances, tout en bas de la France, ou même plus loin, et puis qu'au moment où vous arrivez devant votre lieu de vacances, vous repartez en arrière et vous rentrez chez vous. Ça sert à rien. Vous avez fait tout ça, tout ce trajet pour rien. Et vous avez fait tous ces efforts pour rien. Vous n'avez même pas profité du lieu de vacances et des vacances réelles. Et avec le Seigneur, c'est pas forcément toujours des vacances, mais il nous donne du repos. Il nous donne tout un tas de choses. Et c'est un peu comme ça. On fait tout le trajet jusqu'à arriver aux portes du royaume de Dieu. Et au moment où on doit faire le pas, non, finalement, je repars en arrière. Et puis, on a tout raté. Donc, il y a ces deux points qui sont importants. Le baptême de Jean, la repentance. Et vraiment, le baptême du Seigneur, je me donne à lui et j'accepte son salut. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs, ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Sur les miracles qu'il fait, j'ai pas... On peut juste glorifier le Seigneur et être épaté de tout ce qu'il peut faire à des points assez extrêmes. Juste prendre quelque chose qui a touché Paul et guérir quelqu'un avec ça, c'est quelque chose de magnifique. Même si après, ça peut mal tourner et puis les gens ils vont oublier que c'était Paul ou que c'était Jésus. Et puis ils vont utiliser juste le vêtement. Ça a dû arriver. Mais ce qu'il a fait le Seigneur à la base, c'était quand même quelque chose de grand. Et dans les versets d'avant, en fait, on a toujours la même méthode de Paul. C'est dans un sens très répétitif quand on voit comment Paul faisait. Et toute sa vie, il a fait la même chose quasiment. Il allait dans les villes, il prêchait d'abord aux Juifs. Une partie des Juifs le suivait, l'autre partie le rejetait. Il était obligé de quitter la synagogue. Et alors, il allait vers les gens, les païens, ceux qui n'étaient pas Juifs. Et il leur parlait de la parole aussi. Et dans les deux cas, il y avait soit des juifs sur le dos qui disaient qu'il était hérétique, soit il avait les romains parce qu'il prêchait contre le royaume de Rome pour eux. Et ce qui m'a frappé, c'est cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Moi, je l'imagine bien, chaque jour, il enseignait chaque jour dans l'école de Tyrannus. Chaque jour, il enseignait, chaque jour, il allait prêcher, et chaque jour, il essayait de gagner des âmes au Seigneur. Et c'est pendant 2 ans. Alors, dans un sens, on se dit 2 ans pour un missionnaire, c'est court. Mais 2 ans à tous les jours, aller travailler et aller essayer de forcer la porte et d'en faire entrer dans le royaume de Dieu, il a fait un effort réellement considérable et ça nous interpelle, nous. Des fois, on se dit, Seigneur, on a été... pas combien. On a été une dizaine de fois au bloc cette année et Seigneur, on voit pas de fruits de ce qu'on a fait une dizaine de fois sur l'année. L'année d'après, on y retourne, l'année d'après, et on peut se dire ça fait des années qu'on va au bloc et qu'on voit peut-être qu'on voit pas de fruits. Je pense que c'est voir les choses très négativement si on dit ça, mais qu'on voit pas le fruit qu'on espère, on va dire. Et c'est un exemple pour nous de dire tous les jours pendant 2 ans, où est-ce qu'elle est notre persévérance à nous? Au verset 13, quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et là, on voit clairement les gens qui sont superstitieux et qui se disent « Ah bah tiens, ça marche, on va faire la même chose et ça va marcher. » Et la réponse du démon, elle est terrible. « Je sais qui est Jésus. » Ça m'étonne pas, les démons le savent. Je sais qui est Paul aussi. Ils savaient très bien ce que faisait Paul, et à mon avis, ils en avaient une peur bleue. Parce qu'ils se disaient, c'est un outil entre les mains du Seigneur, et il est en train de d'ouvrir le royaume de Dieu à tellement de gens, et c'est exactement l'inverse de ce que font les démons, en fait. Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul. J'espère dans mon cœur qu'il dirait, s'il y avait la même chose, je sais qui est Michael aussi. Est-ce qu'ils me connaissent finalement, les démons? Est-ce qu'ils nous connaissent? Est-ce qu'on est connu de eux, ou est-ce qu'ils disent eux? Lui, ouais, bah, il est dans la liste de ceux qui... C'est les gens qui dérangent pas, on les laisse tranquilles, parce que de toute façon, on n'a rien à craindre d'eux. Ou est-ce qu'ils disent, voilà, Michael, lui, il est sur la liste noire, on fait gaffe à lui, dès qu'on peut l'avoir, on l'attrape. Dans un sens, ça devrait être ça, ça fait pas plaisir d'être sur leur liste noire. Mais si on y est, ça veut dire qu'ils nous craignent. Et Paul, il a pas eu le souci de gens démoniaques qui se jetaient sur lui et qui le maltraitaient. Parce que les démons savent qui est Paul, mais ils savent qui est Jésus aussi. Et quand Paul y faisait des choses, il le faisait au nom de Jésus, et en fait, Paul et Jésus, c'était la même chose. Ce qui fait que les démons pouvaient pas l'attaquer. Ils avaient juste de temps en temps la main quand Dieu leur permettait de le faire, comme on voit avec Job. Le malin pouvait toucher Job uniquement parce que Dieu lui avait laissé l'occasion de le faire. Il a dit, ok, tu touches à ça, mais ça, tu n'y touches pas. Et avec Paul, c'était la même chose. Comme il appartenait à Jésus, il était protégé de toutes ces choses. Et ces gens-là, qui connaissaient rien du tout, qui essayaient juste d'employer des méthodes, eh ben, ils étaient absolument pas protégés, et le démon, il s'est bien chargé de leur faire comprendre. Et c'est juste la superstition qu'il y a dans le cœur de l'homme, en fait, de pas vouloir chercher Dieu, mais les choses qui y ressemblent, les choses qui ont l'air de bien donner, de donner des bons résultats, et puis d'essayer la même chose. Et c'est aussi un avertissement pour nous, je pense, pas juste pour les gens superstitieux de l'extérieur, mais de se dire, ce qui est important, c'est ma foi à moi. Est-ce que moi, Jésus me connaît? Est-ce que moi, les démons me connaissent? Ou est-ce que je me base sur la foi? Je l'ai dit avant, quand mon père venait, est-ce que je me basais sur sa foi à lui ou sur la mienne? Et c'est important qu'ils me connaissent moi et ma famille, mon père ou autre, c'est autre chose. Limite, c'est dans ce cas-là, c'est cibler chacun son problème presque. Et on en a parlé mardi, c'est quelque chose qui m'a travaillé. Il y a une fois où Corinne avait eu un malaise, et je le redis parce que ça m'a marqué. Et en fait, Daniel s'est levé, il faisait la présentation, je pense, et il a dit, il faut qu'on continue à louer le Seigneur parce que le malin, il essaye d'attaquer, et il essaye de nous détourner notre attention du Seigneur Jésus. Et dans la semaine, je lui envoie un mail à Daniel en disant, ben, je sais pas, ton truc, ça m'a mis mal à l'aise parce que tu parles de démons, d'activité démoniaque, alors que bon, elle est malade, elle a eu un malaise, c'est tout, quoi. Il y a des fois, faut pas chercher plus loin. Et en fait, par plusieurs choses, dont un moment précis avec Raphaël, le Seigneur m'a montré que ce qui est matériel et ce qui est spirituel, c'est extrêmement lié. Et l'histoire avec Raphaël, je vous l'avais dit l'autre fois, c'est qu'on voulait prier, je voulais expliquer quelque chose que j'avais reçu d'extrêmement important à Maï. Et au moment où j'ai voulu lui expliquer, il a commencé à faire des coliques et à hurler et on pouvait rien en faire. Alors que pendant une heure avant, il n'y avait pas un bruit, il était sage et voilà. Et là, c'était vraiment quelque chose de... On a ouvert les yeux, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est extrêmement lié. Et si on est mal à l'aise quand on parle de ces choses-là, c'est pas parce forcément, c'est même pas parce que c'est faux. C'est parce qu'on les connaît pas, ces choses, et qu'on n'y est pas habitué. Et comme on n'y est pas habitué, quand d'un seul coup on parle de démons, on fait... On parle pas de choses comme ça, on est dans une église, quoi. Enfin, des fois, ça met mal à l'aise, on se dit, ces trucs-là, au moins on en parle, au mieux on est. Et pourtant, c'est leur œuvre, et il faut bien qu'on ait les yeux ouverts et qu'on s'aperçoive de ce qu'ils font. Alors dans cette affaire-là, en fait, avec les exorcistes, donc les choses étaient en fait très très liées entre ce qui était spirituel et ce qui était matériel. Et après cette affaire-là, cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et on en arrive au point important, finalement, de toutes les affaires, tout ce qui peut se passer. Le but de toute chose, c'est pas qu'on parle des démons, c'est pas qu'on parle du diable, c'est qu'on glorifie le Seigneur Jésus. Et quand il y a des guérisons, quand il y a le Saint-Esprit qui descend, qui donne de parler en langue, de prophétiser, quand il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, l'unique but de tout ça, c'est de glorifier Dieu. C'est pas de parler de Paul, forcément, c'est pas de parler des anciens ou de parler de je sais pas trop quoi d'autre, c'est de glorifier le Seigneur. Et ça, il faut vraiment qu'on n'oublie pas dans nos vies. Il y a un verset qui dit qu'on est né pour glorifier le Seigneur ou quelque chose comme ça. Un verset qui part dans Éphésiens, je crois, qu'on est né pour servir le Seigneur, pour servir à sa gloire. Et il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on se dise à quoi elle sert ma vie, qu'est-ce qu'elle reflète, est-ce que réellement, quand je regarde ma vie maintenant, c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur ou est-ce que c'est une vie tout ce qu'il y a de plus normal et rien de plus. Le but de notre vie, c'est glorifier Dieu. Si on s'arrête et qu'on voit que ça le glorifie pas nécessairement, quand il dit pas nécessairement, souvent c'est pour dire que ça ne glorifie pas, mais un petit peu quand même peut-être, on n'est pas sûr. On met des pas nécessairement, ça adoucit un peu les choses, mais en réalité, soit on glorifie Dieu, soit on ne glorifie pas. Il n'y a pas 36 choix différents. Et si on s'arrête, qu'on réfléchit, et qu'on voit que notre vie glorifie pas vraiment Dieu, on peut mettre pas vraiment aussi, en fait. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre pour adoucir la claque, des fois. Si notre vie glorifie pas vraiment Dieu, alors on a un gros souci, parce qu'on est dans l'église depuis un certain temps, on est peut-être avec le Seigneur depuis un certain temps, et on a raté complètement notre but. Quand on a fait les 1500 km pour aller en vacances et qu'on se retrouve finalement en Allemagne alors qu'on devait être en Espagne, par exemple à Madrid au lieu d'être à Berlin, il y a quand même... quand on sent, si ça doit arriver à quelqu'un, il doit se dire « Oh mince !» Puis alors là, ça fait un coup quand même. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait dans nos vies. Quand on marche toute notre vie en ayant une vie qui semble bien mais qui en vrai glorifie pas Dieu, et qu'on arrive au bout et qu'on se dit « Mince, je suis là, je devais être là-bas », c'est pire que les vacances, là. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, je vous en avais parlé l'autre fois déjà, mais on y a réfléchi avec Maï. C'était cette période de 2 ans. C'est aussi je ne sais pas si c'est 2 ans exactement, mais c'est le temps que l'église de Corinthe elle avait en durée de vie. Je m'explique pas bien en fait. Il y a un verset qui dit « Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Or, vous en êtes encore au lait et aux choses de base. » Et ça, c'est quelque chose que Paul, il dit à l'église de Corinthe. Et quand il leur dit « Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres », l'église de Corinthe, elle avait combien en années? Moi, je me dis, ça devait être quelque chose 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ça datait du 2e voyage de Paul. Au moment où il leur écrit la lettre, il est à peine au 3e, en fait. Donc, il s'est passé vraiment très peu de temps. Et il leur dit, ça fait déjà 1 an que vous êtes dans l'église, vous devriez être des maîtres, et vous en êtes où là? À vous disputer pour telle ou telle raison, à vous chamailler pour ça, à avoir de l'adultère dans l'église. Et là je me dis, gloups, ça fait combien d'années que je suis dans l'église? Et pour beaucoup d'entre nous finalement, comme y a des gens qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps, ils peuvent se dire, ouf, c'est bon, j'ai pas encore passé l'année. Mais finalement, on est depuis combien de temps dans l'église et est-ce qu'on est devenu des maîtres? Et ça, ça me frappe vraiment de me dire, on entend tellement, 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 tellement de prédications, tellement de toutes sortes de choses, on lit tellement de livres. Est-ce qu'on est devenu des maîtres pour autant? Et il nous manque quelque chose de plus. Alors, j'ai pas forcément c'est pas forcément la même chose pour chacun d'entre nous, c'est pas un truc particulier. Mais il faut déjà se rendre compte que on devrait être bien, bien, bien loin, et on en est resté à marchoter tout doucement, et comme un enfant qui commence à marcher. Je voyais Maël, la dernière fois qu'on l'a vu, il marchait pas du tout, et là il tient sur ses deux jambes, nous on était là, oh! Parce que forcément on pense à Raphaël après, mais imaginez quelqu'un qui a 40 ans et puis qui continue à à marchoter tout doucement comme ça, tout tremblant, et puis à peine à avancer, à avoir du mal. On dirait, bah attends, quand même. Ou alors on se dit, il y a un souci, il y a une maladie, il y a un souci physique ou quoi que ce soit. Mais si cette personne est parfaitement normale, on se dit, c'est pas normal, elle aurait dû grandir, quoi. Enfin, si elle est normale, elle est pas normale. Ouais, bon. Mais il y a quelque chose qui va pas, forcément, c'est pas normal. Et en fait, c'est exactement la même chose avec nous. Si on est depuis X années dans l'église, et qu'on est encore en train d'avancer tout doucement avec le Seigneur, d'apprendre encore les choses de base, ben c'est pas normal, autant que l'enfant, enfin l'adulte à 40 ans qui marche pas. Donc ça, c'est le Paul qui est reparti à Éphèse. Alors après, il y aura l'émeute d'Éphèse qu'on verra la fois prochaine. Et je vais essayer d'être plus régulier pour qu'on avance, parce que sinon on va... Entre deux, il y a eu énormément de lettres de Paul. On l'a déjà vu l'autre fois, en fait. Et tout le temps qu'il a passé à Éphèse, il a enseigné tous les jours. Et en plus, il a envoyé des lettres à d'autres églises pour les encourager. Et il y a les lettres aux Corinthiens, par exemple, qu'il a envoyées pendant ce voyage-là. C'est... Quand on y regarde, des fois, il y a des choses qui sont pas forcément très claires ou des choses qui nous manquent. Je m'explique, quand on lit 1 Corinthiens, donc la première lettre, celle que nous on a appelée première lettre en tout cas. Donc 1 Corinthiens 5, verset 9, il leur dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Et puis il explique quelque chose. Nous c'est 1 Corinthiens, mais sauf qu'en fait on a raté la lettre qui était avant, qui s'est peut-être perdu, on ne sait pas. En tout cas, c'est une lettre qu'on n'a pas récupérée, nous. Et du coup, en fait, il avait envoyé une première lettre. Et c'est pareil pour ces voyages, en fait. La Bible, elle est très, très concise. En même temps, si tout était écrit, on aurait une Bible en 20 ou 30 volumes, je ne sais pas. Et elle ne nous dit pas tout ce qu'a fait Paul. Et quand on parlait tout à l'heure des 2 ans de travail acharné... En fait, il était même plus qu'acharné. Il a écrit des lettres, et entre deux, il semblerait même qu'il est parti de Éphèse, il avait entendu des choses de Corinthe, il est reparti à Corinthe pour régler des choses, et après il est revenu à Éphèse. Et ça, on n'a pas de traces dans les actes. Mais quand il parle de ses voyages, il le dit, en fait. Dans 2 Corinthiens, il leur dit, donc c'est 2 Corinthiens 12, verset 14, il dit « Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. » Et il continue sa phrase. Et en fait, quand on regarde bien, ça, il l'a écrit au début de son troisième voyage, et il était allé qu'une seule fois à Corinthe. « Pour la troisième fois, je m'apprête à aller chez vous. » Ça veut dire qu'entre deux, entre la fin du deuxième voyage et puis le... presque le début du troisième ou le milieu du troisième, il est reparti vite fait à Corinthe parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et il est revenu après à Éphèse. Et donc là, la Bible, elle en dit rien du tout, mais on a des traces dans ces lettres comme ça. Et pour ces lettres, dans 2 Corinthiens, on lit aussi « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre. » Et explique plus loin, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure. » Et en fait, dans ces versets-là, il donne l'impression qu'il a envoyé une lettre qui était extrêmement dure, extrêmement sévère et forte aux Corinthiens. Et c'est pas tout à fait ce qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens qu'on a nous ici. Donc on ne sait pas si entre deux, en fait, entre ce que nous on a comme première lettre et comme deuxième lettre, lui, il n'y en aurait pas encore aussi envoyé une aux Corinthiens pour essayer de régler des affaires, et une lettre où il aurait été assez, sévère, en fait. Et donc il y a toutes sortes de choses qui ne nous sont pas écrites, qui ne sont pas données, mais la bonne chose, c'est qu'on a gardé des lettres. Et on peut dire, si toutes les fois où Paul, il était en voyage et il disait « zut, je suis à Éphèse, je viens déjà d'aller 2 fois à Corinthe, je ne peux pas retourner les voir tout de suite. » Et ils disaient, bah, « Tant pis, je vais leur écrire une lettre, je ne peux rien faire d'autre pour eux. » Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et heureusement qu'il a été empêché d'aller à Corinthe. S'il avait pu y aller à chaque fois qu'il en avait eu besoin, bah, on n'aurait eu aucune lettre. Et il nous aurait manqué des choses qui sont extrêmement précieuses. Et c'est comme ça pour toutes les lettres aux églises, finalement. S'il avait eu l'occasion d'y aller, si le Seigneur avait fait de lui un surhomme, qu'il aurait pu voyager beaucoup plus vite, prendre des bateaux beaucoup plus rapides. Je vais partir dans un truc après. Et il aurait été partout, c'est sûr, mais nous, il nous aurait resté quoi? Est-ce que lui, il pouvait voir peut-être comme des défauts, comme des choses négatives, comme des choses qui lui ont manqué? Eh ben, nous, on les voit comme des trucs, ouf, heureusement qu'il n'y est pas allé. Du coup, on a les lettres et ça nous permet d'avancer et de comprendre bien des choses. Et c'est valable pour notre vie aussi de se dire, on parlait tout à l'heure de le Seigneur, il enlève les gens compétents des fois pour qu'on prenne conscience. Et le Seigneur, il nous coupe des occasions des fois parce qu'il sait qu'en fermant cette porte-là, il en ouvre d'autres qui sont après bien, bien plus grandes. Et c'est un encouragement pour nous à lui faire confiance. C'est quelque chose que je prends aussi pour moi. Je me dis, si le Seigneur, il a fermé telle ou telle porte, il sait ce qu'il fait et il faut absolument lui faire confiance parce qu'il en ouvrira d'autres et il ouvre les bonnes. Il faut juste lui laisser fermer, ouvrir et pas vouloir aller nous-mêmes essayer de changer les portes. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ces choses à propos de Paul. C'est vrai qu'on pourrait passer une année complète peut-être à prêcher sur ces voyages et il y a tellement de choses, c'est tellement riche. Et Seigneur, on te prie de travailler nos cœurs, de diriger aussi pour que les choses les plus importantes ressortent et